Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoulia, bonjour. L'influent archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Pasinya, qui a longtemps joué un rôle politique de premier plan en République démocratique du Congo, est mort hier à 81 ans, près de Paris en France. Nous y reviendrons avec Eddy Issango et notre correspondant à Kinshasa, Patrick Lupika. Au Niger, le gouvernement a annoncé hier soir que 5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués dimanche dans la région de Tillabéri, proche du Mali, lors d'une attaque contre le village de Tioma-Bangou par une centaine de djihadistes présumés lourdement armés. En Afrique du Sud, pneus brûlés, routes coupées, incendies et pillages, des violences sporadiques ont émergé ces derniers jours. D'abord en pays Zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics, dont le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours sur le coronavirus hier soir. La police a procédé à 62 arrestations depuis vendredi, selon un communiqué diffusé hier à la mi-journée. Cette agitation, initialement suscitée par l'incarcération jeudi de l'ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice, intègre le désespoir économique ressenti, dit-on, par une large frange de la population privée d'emploi à un moment où l'Afrique du Sud subit de nouvelles restrictions liées à une troisième vague meurtrière de la pandémie de coronavirus. En Égypte, la Chambre des représentants a approuvé hier un amendement qui transforme le délit de harcèlement sexuel d'une femme en crime, désormais passible d'une peine d'au moins 5 ans de prison contre 1 an et demi minimum jusqu'alors, selon des médias locaux. Tourisme spatial, le milliardaire Richard Branson a réussi hier son premier vol dans l'espace à bord de son avion-fusée Virgin Galactic, qui s'est posé sans encombre au Nouveau-Mexique après ce baptême de feu en équipage complet. Après, outre le Britannique, 2 pilotes et 3 autres passagers des employés de Virgin Galactic se trouvaient à bord. Branson a salué une expérience unique dans une vie en s'exclamant « Bienvenue à l'aube d'une nouvelle ère spatiale ». Le vol dans l'espace du patron d'Amazon Jeff Bezos est lui prévu le 20 juillet. En Haïti, la police a annoncé hier soir avoir arrêté un ressortissant haïtien qui avait des objectifs politiques en recrutant le commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi, selon le directeur de la police nationale Léon Charles. À son arrivée dans le pays en juin, c'était à bord d'un avion privé, Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, était accompagné de plusieurs ressortissants colombiens chargés d'assurer sa sécurité. La mission a ensuite changé, a expliqué M. Charles. La mission était de procéder à l'arrestation du président de la République et l'opération a été montée à partir de là. 22 autres individus sont alors entrés en Haïti, a-t-il ajouté. Des membres du FBI, du département d'État, du ministère américain de la Justice et du département de la Sécurité intérieure des États-Unis sont arrivés dimanche en Haïti et ont rencontré le directeur général de la police nationale. Washington a mis en garde dimanche Cuba contre tout usage de la violence contre des milliers de manifestants qui sont rassemblés à travers l'île pour protester pacifiquement contre la dictature, excédée, selon l'AFP, par la crise économique. Dans une allocution télévisée, le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé ses partisans à répliquer dans la rue, accusant ce qu'il a appelé la mafia cubano-américaine d'être derrière ce soulèvement sans précédent. En Afghanistan, un système de défense capable d'intercepter roquettes et missiles a été déployé à l'aéroport de Kaboul, voie de sortie des ressortissants étrangers d'Afghanistan, nouveau signe d'inquiétude face à l'avancée inexorable des talibans, que traduit également l'évacuation par l'Inde du personnel indien d'un consulat. Au Japon, Tokyo est de nouveau entré ce lundi en état d'urgence face à l'épidémie de coronavirus à moins de 2 semaines du début des Jeux olympiques. La suite de nos informations, l'influent archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo-Pasinya, qui n'a jamais épargné ses critiques au régime qui se sont succédé en République démocratique du Congo, est mort dimanche à 81 ans près de Paris, en France. Le cardinal Mosengo a longtemps joué un rôle politique de premier plan au Congo. Eddie Sango a joint à Kinshasa l'historien et professeur d'université Isidore Daywell.
Un grand Africain, quelqu'un qui aimait profondément son peuple et qui était au service de son peuple, à la fois en tant que prélat et en tant qu'intellectuel. Il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter pour ce peuple, pour sa défense, pour l'instauration de la justice sociale, l'instauration de l'état de droit dans ce pays et également l'affirmation de l'autorité de l'État. Je pense qu'il a apporté tout son concours depuis la fin des années 80 comme président de la conférence des évêques du Zaïre jusqu'aux dernières élections lors de l'alternance politique en passant par la conférence nationale et le Haut Conseil de la République.
Figure religieuse d'influence politique, mais on ne l'a pas beaucoup vu depuis que le régime a changé. Quelle était sa position par rapport au nouveau pouvoir?
Pendant cette période-là, il n'est plus archevêque de Kinshasa. Il est devenu archevêque émérite. Et de ce fait-là, il n'avait plus à prendre de position publique.
Le cardinal Mosengo était considéré par beaucoup comme l'un, si pas le pilier de la démocratie en RDC. Mais comment a-t-il su combiner son rôle de prélat religieux à celui de politique?
C'était un service exceptionnel qui avait été demandé à l'Église du Congo de faire. Ce n'est pas habituel. Et c'est à ce titre-là qu'il se retrouvait d'ailleurs à la tête de la CNS. Parce que le service avait été demandé non pas à l'individu, mais à l'Église.
L'historien et professeur d'université Isidore Daywell. Pour d'autres réactions, nous retrouverons en seconde partie de cette édition notre correspondant sur place à Kinshasa, Patrick Lupika. Au Mali, l'imam Mahmoud Diko a rendu hommage hier aux victimes des manifestants anti-Ibeka d'il y a un an, jour pour jour. Annoncé, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga n'a pas fait le déplacement à Clermont-Ringibourg.
Nous demandons tout simplement la justice, a déclaré l'imam Diko devant une assemblée réunie devant sa mosquée du quartier Badalabougou de Bamako, là où des forces de l'ordre étaient intervenues contre un rassemblement de fidèles faisant 11 morts selon les autorités, 23 selon l'opposition, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020. Assis entre plusieurs membres du mouvement du 5 juin, l'imam Diko a répété que l'armée doit rester une armée républicaine au service du peuple et non le contraire. Le peuple malien ne donnera un chèque en blanc à personne, a-t-il dit, répétant une formule qu'il avait largement utilisée du temps de la fronde anti-Ibeka. Il faut, selon M. Diko, organiser des élections fiables et crédibles. Alors que sa présence avait été annoncée, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, également issu du M5, n'était finalement pas présent. L'imam Diko avait mené la fronde politico-sociale en 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta avant le coup d'État d'août. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont promis un retour à l'ordre constitutionnel lors d'élections en février 2022.
Les deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, se sont affichés ce week-end unis pour œuvrer à la réconciliation nationale. Longtemps adversaires politiques, les deux anciens chefs d'État se positionnent comme opposants naturels à l'actuel président Alassane Ouattara. Michel Joseph.
Accolades, sourires, poignées de main, pendant deux jours, les deux anciens chefs d'État ont affiché une certaine complicité qui tranche avec les déclarations hostiles du passé. Dimanche, les deux hommes ont souligné l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire, selon un communiqué conjoint concluant la visite de Laurent Gbagbo dans la région de Daoukro, le fief de M. Bédié. Au moment de l'élection présidentielle de 2010, Henri Konan Bédié avait apporté son soutien à Alassane Ouattara, alors rival de M. Gbagbo. Puis, alors que ce dernier était poursuivi par la CPI, M. Bédier avait affirmé que M. Gbagbo était le véritable donneur d'ordre et devrait rendre des comptes. Depuis, M. Gbagbo a été définitivement acquitté. Dimanche, Henri Conan Bédier a assuré accorder toute sa confiance à M. Gbagbo pour mettre en place un projet de réconciliation. Le PDCI de M. Bédier et le Front populaire ivoirien de M. Gbagbo se sont déjà associés aux législatives de mars dernier.
Lutte contre la pandémie de coronavirus dans le monde, restrictions en Libye et en Afrique du Sud, le variant Delta inquiète et un cas inédit d'une contamination par deux variants a été découvert. Les détails avec John Linden.
Face à la hausse des cas, la Libye a mis en place de nouvelles restrictions. Les cafés, salles de fête et d'autres lieux de rassemblement vont fermer pour deux semaines. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir que la plupart des mesures prises fin juin contre le variant Delta vont être prolongées jusqu'à fin juillet. La progression du variant Delta, extrêmement contagieux, suscite la crainte. Les États-Unis se sont dit très inquiets à propos des variants qui pourraient menacer la reprise économique mondiale, a déclaré aujourd'hui à Venise la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Enfin, des chercheurs belges ont fait état du cas inédit d'une nonagénaire décédée en mars du COVID-19 après avoir été infectée simultanément par deux variants différents, l'alpha, le britannique et le bêta sud-africain, un phénomène sans doute sous-estimé selon les chercheurs.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Banque africaine de développement va soutenir la Côte d'Ivoire dans la création de chaînes de valeurs agricoles afin de créer davantage d'emplois et de rendre la croissance économique plus inclusive. Ces chaînes de valeurs agricoles recevront des investissements pour transformer les zones rurales en zones de création de richesses pour les populations, rapporte l'agence Ecofin. La croissance réelle de la Guinée devrait rester forte en 2021 à 5,2%, soutenue par une expansion continue des mines et consolidée par une reprise progressive de l'économie non minière. Les analystes recommandent entre autres la diversification de l'économie, l'augmentation des recettes intérieures, l'amélioration de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et la prudence en matière d'emprunt extérieur. Pour terminer, les pays riches devraient réaffecter au moins 30 milliards de dollars de liquidités du FMI vers des investissements en Afrique pour l'aider à lutter contre les effets du coronavirus et du changement climatique, ont déclaré des ministres africains des Finances dans une lettre ouverte aux dirigeants du G20 qui étaient réunis en sommet vendredi et samedi en Italie. Cet argent est une partie de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars que le FMI veut mettre en œuvre. L'argent est en principe réparti entre ses membres en fonction de leur participation, ce qui signifie que les riches en bénéficieront le plus avec seulement 7% ou 42 milliards de dollars allant aux 44 pays les plus pauvres.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Élisée Kongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une, l'épilogue de l'Euro 2021, l'Italie vient à bout de l'Angleterre en finale et s'offre le trophée.
Oui, une consécration à Wembley et devant l'Angleterre à l'issue des tirs au but 3-2, un but partout à l'issue des 120 minutes de jeu. La Squadra Azzurra s'est imposée dans une deuxième séance de tirs au but après celle contre l'Espagne pour décrocher sa deuxième Coupe d'Europe, son Euro après celui de 1968. Roberto Mancini et ses hommes enchaînent un 34e match sans défaite. Comme le Portugal en 2004 et la France en 2016, l'Angleterre aussi perd sa finale à domicile devant son public et devra attendre avant d'inscrire son nom au palmarès.
Fin également de la Copa América avec le sacre de l'Argentine dans le mythique stade de Maracanã.
Succès 1-0 face au Brésil. Un but d'Angel Di Maria et Lionel Messi remporte enfin un trophée avec l'Albi Céleste. Un premier titre aussi depuis 1993 pour l'Argentine. La sélection amenée par Scaloni tient son 15e sac dans cette compétition et rejoint ainsi l'Uruguay au palmarès après 28 ans sans titre majeur.
La saison tire également à sa fin en Afrique et en attendant la finale de la Ligue des Champions. on connaît le vainqueur de la Coupe de la Confédération.
Tout à fait. Et c'est le Raja de Casablanca qui remporte le trophée à Cotonou au stade Mathieu Kérékou en battant la Jeunesse Sportive de Kabylie 2-1. Une finale pliée pour les Marocains dès les premières minutes avec déjà 2 buts inscrits par Sofiane Raimi et Ben Malango. Mohamed Zakaria Boulaya a réduit entre-temps le score pour les Algériens. Satisfaction pour l'entraîneur tunisien du Raja, Lassad Chabi, qui vient de remporter un deuxième titre de sa carrière après la Coupe de Tunisie avec l'US Monasti.
La première mi-temps, on a eu 2-3 chances, on a marqué les 2 buts. Mais la deuxième mi-temps, on a encaissé 1 but et on a eu le carte rouge. Et depuis ce temps-là, le GSK a dominé le jeu. Ils ont des joueurs extraordinaires. On a joué contre une grande équipe avec un grand entraîneur.
Fin de la saison donc en Afrique le samedi prochain avec la finale de la Ligue des Champions entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Sud-Africains des Kaizer Chiefs au Maroc au stade Mohamed V.
Le foot, c'est aussi dans les coulisses avec l'élection du président de la Fédération nigérienne de football, Djibrila Ima Amidou Rampil.
Oui, le colonel Major Pelé a été élu pour un 3e mandat. Il a battu non sans peine son challenger Salif Mayaki à Maradi, dans le nord du pays, par un score sans appel de 101 voix à 26. Djibrila Ima Amidou a été donc reconduit à la suite d'un bon bilan et d'un programme attractif. Il faut signaler que cette assemblée générale élective de la FENIFOOT s'est déroulée en présence de tous les délégués et des représentants de la FIFA.
Au Sénégal, en attendant les élections du président de la fédération prévue le 7 août, ils sont désormais 4 candidats.
Exactement, Idrissa. Et après Augustin Senghor, président sortant, Madi Touré, président de Génération Foot, et Mbaye Diouf Dia de Mbou, Petite Côte, c'est au tour de Saïd Sek de sortir du bois. Le patron de Diamba et de la Ligue de football a déclaré sa candidature ce samedi pour briguer le poste de président de la Fédération Sénégalaise de football.
Merci, Élisée. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Pasigna, est décédé ce dimanche près de Paris, en France. Il s'y était rendu dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet dernier dans un avion médicalisé pour des soins appropriés, alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique à Kinshasa. Très impliqué dans les évolutions politiques du pays, avant et depuis la conférence nationale et la chute du président Mobutu Sese Seko, le cardinal Mosengo a effectué d'innombrables médiations entre les acteurs politiques et la société civile congolaise. Au sein de l'Église catholique, outre le Conseil des cardinaux, le cardinal Mosengo a occupé de nombreuses charges, en particulier dans le cadre du synode des évêques. Patrick Lupica, notre correspondant en RDC, vous propose ce reportage.
Son influence a largement dépassé le cadre de l'Église catholique. C'est dans cette configuration qu'il va diriger, en tant que président, la Conférence nationale souveraine en 1990. La santé du cardinal, âgé de 81 ans, avait été jugée préoccupante par son successeur, le cardinal Fridolin Mbongo, sur Twitter, la veille de son évacuation, sans pour autant révéler les causes de la dégradation de son état de santé. Le porte-parole de l'opposition dans le Grand Katanga, Raymond Muyumba Maïla, voyait en lui un véritable président de la RDC.
Je me condamne de n'avoir pas accepté à ce moment-là de devenir président de la République. C'est un peu plus tard que l'Église doit apprendre qu'il est interdit à un prêtre de faire la politique sans l'autorisation de Rome. Si la conférence nationale, elle a fait plus de jours que prévu par l'attitude de Mobutu, c'est grâce à lui. Il a su maîtriser les conférenciers qui avaient des sentiments d'enthousiasme politique.
L'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende Omalanga, gardait de lui un homme rempli de sagesse.
C'était en même temps un sage. Et je regrette sincèrement que notre pays ait perdu un esprit de cette trempe-là. C'est vraiment triste. J'ai connu le cardinal Motsengo pendant la conférence nationale souveraine et le trait de sa personnalité qui a retenu particulièrement mon attention, c'était sa grande érudition. C'était vraiment ce qu'on peut appeler un savant.
Ouvertement opposé au régime de Joseph Kabila qui voulait briguer un troisième mandat, Laurent Motsengo s'est approprié ce combat qui a mené la RDC aux élections générales de 2018. Les députés nationaux Claire Mubambe du parti de Moïse Katumbi Kapwe parle d'une référence mondiale qui a boosté l'opposition devant Kabila.
L'opposition a apporté un plus au niveau de notre pays et c'est ce qui a fait que, au niveau de l'ensemble des changements qui ont été dirigés par notre autorité morale, disons Moïse Katumbi, nous étions très très contents de sa prise de position qui était vivement très intégrative contre ça.
L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, sera en réunion avec le collège épiscopal dans les heures qui suivent pour décider des funérailles de Laurent Motsengo. Kinshasa, Patrick Lupica, VOA Afrique.
La France a annoncé la fermeture très prochaine de certaines de ses bases militaires dans le nord du pays et aussi la réduction de ses effectifs dans le Sahel. À Gao, les avis restent partagés face à ces nouvelles dispositions de la force Barkhane. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les autorités françaises prennent de nouvelles dispositions dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Certaines bases militaires dans le nord du pays seront fermées et l'effectif militaire dans le Sahel sera réduit. Face à ces nouvelles dispositions, les avis restent partagés. Pour les raisons, la France n'a plus sa raison d'être au Mali, surtout qu'elle ne parvient toujours pas à sécuriser les populations et leurs biens.
Moi, je pense que vraiment Barkhane doit plier ses bagages parce qu'ils n'ont pas pu vraiment faire ce que nous nous attendons d'eux. À leur arrivée, nous pensons que pour sécuriser nos villages, nos villes, mais nous avons constaté que ça devient de plus en plus grave.
Pour moi, la France maintenant ne voit aucun intérêt vu qu'elle a dépouillé tout le bien, le sous-sol malien. Ils ne voient aucun intérêt. Donc moi, je pense que c'est un
Pour les autres, la force Barkhane est d'une grande utilité non seulement dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans la création d'emplois et l'aide humanitaire.
Qu'on ne le reconnaisse pas, la Barkhane nous a beaucoup aidés. Il y a des milliers de jeunes qui sont en chômage aujourd'hui, mais ils les ont donné du travail, tu vois. Donc ça a aidé beaucoup de monde, tu vois. Mais qu'ils partent, ça aussi c'est une autre chose.
Moi je suis pas pour leur départ. Les grandes bases du Nord, Tombouctou, Kidal, Gao et Meneka. Moi, je crois que pour cette base, ils devaient avoir des forces qui devront aider nos forces maliennes qui sont déjà présentes ici. Et pour les petites bases, peuvent reculer.
Je pense qu'on n'est pas prêt à laisser partir Barkhane, parce que Barkhane est d'une grande aide, non seulement côté sécuritaire, mais aussi côté employabilité. Voilà, Barkhane emploie beaucoup de jeunes gens. Ils aident les familles à faire beaucoup de frappes. Donc du coup, c'est compliqué pour nous de laisser partir Barkhane. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon.
Pour le troisième groupe de personnes interrogées, c'est une chance pour la région parce que la base militaire française ne quittera pas Gao, en tout cas pour l'instant, à en croire les autorités françaises. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, les conclusions de l'audit environnemental et social de la Safacam, l'une des plus anciennes agro-industries installées dans le pays, ne fait pas l'unanimité. En effet, la société a été reconnue par un organisme indépendant comme ayant de bonnes pratiques sur ses sites d'exploitation. Ce que contestent les représentants des communautés des villages riverains à cette agro-industrie. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julte.
Pour faire respecter les droits des riverains, les autorités ont exigé depuis 2018, sous la pression de la société civile, que les agro-industries doivent faire certifier par un organisme indépendant leurs pratiques environnementales et sociales sur les sites d'exploitation.
Voici en fait mon village, le grand territoire ici, qui a plus de 10 km depuis 1896. Vous cédez des terrains aux gens jusqu'aujourd'hui, même une bonne fontaine, ils ne vous ont jamais donné.
Raymond Priso est notable du village CPI Longango, situé à près de 80 km de Douala.
Ceux qui sont au village peuvent faire de l'agriculture, mais il faut qu'on nous libère les espaces vitaux, coutumiers, pour qu'ils puissent le faire. Qu'ils arrêtent de continuer cette façon de faire certifier leur exploitation.
Selon les experts, le processus de certification d'une agro-industrie doit être consultatif. Catherine Bakamba est originaire de Dikola, l'un des quatre villages riverains de la Safakam.
Leur rapport ne montre pas qu'ils sont passés à Dikola. Ils ont arraché nos terres, ils ont cassé nos forêts et ils ont conçu leur camp à Dikola.
La Safakam possède de vastes étendues de terre pour le développement de l'agriculture à grande échelle dans les localités de Mwanko et Dizangé, dans la région de littoral. Michel Essonga, de la Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun, Sinaparkam, a dénoncé le processus défaillant des consultations dans les villages riverains de la Safakam.
Ils n'ont pas consulté toutes les communautés et les parties prenantes. Je lui ai plutôt remis les documents. Il n'y a pas eu entretien parce qu'il était accompagné des agents de Safakam.
Contacté par VOA Afrique, Charles Kouadio de SSC Global Services, l'organisme qui a fait certifier les plantations de la Safakam, explique, citation, « Les villages d'Ikola, Nsepe et Longango sont situés dans une zone différente de celle que nous avons été chargés d'auditer. » Car ils ne sont pas directement impactés par les zones de la Safakam qui ont été certifiées. La Safakam a été autorisée à certifier les titres fonciers de son exploitation où les villages de Dikola, Essepe et Longango ne sont pas directement impactés. Ils seront audités à l'avenir. Fin de citation. Par contre, la Safakam, qui est une filiale du groupe Sofin, n'a pas répondu à notre sollicitation.
Si ça continue dans cette lancée, il me semble que ça présage une implosion beaucoup plus tard.
Guy Parfait Kabela, socio-anthropologue et consultant en gestion des ressources naturelles.
Le certificat qu'on donne concerne effectivement le palmier à huile durable. Et il n'y aura pas de durabilité tant que certaines entités dans la chaîne du palmier à huile, notamment les communautés locales, sont lésées.
La Safakam est la première agro-industrie à se voir attribuer une certification RSPO au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jeuntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, on parle beaucoup ces derniers temps de la flambée des prix des produits de première nécessité. Dans les marchés, vendeurs et acheteurs se plaignent de cette hausse des prix et pour le Béninois moyen, il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La population béninoise se plaint de la cherté des produits de première nécessité, baisse de la production, conséquence de la crise sanitaire ou une mauvaise manipulation des prix sur le marché. Experts et spécialistes des questions économiques avancent leurs arguments. Mais dans les marchés, les usagers se plaignent de cette hausse vertigineuse des prix qui ont presque doublé depuis le début de l'année.
Tout est cher, nous ne comprenons plus rien. Chaque jour, il y a une augmentation de prix. Nous implorons le tout.
Nous avons faim. La nourriture, l'alimentation, c'est capital. Si vous promettez à un peuple le changement des systèmes macroéconomiques, microéconomiques, c'est bon. Mais si ce même peuple n'a pas mangé, quelle que soit la qualité des réformes que vous opérez, le peuple va toujours crier.
Certains vont même jusqu'à accuser le soutien du gouvernement à la production cotonnière au détriment des produits alimentaires.
La pauvreté ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement.
Pour Shadia Alimatou Assouma, ministre du Commerce, le phénomène de la hausse des prix est mondial.
Cela s'explique par divers facteurs, au nombre desquels la mauvaise pluviométrie qui a induit les récoltes moins bonnes que prévues dans les grands pays producteurs et consommateurs. Ensuite, il y a l'appétit des grands pays consommateurs qui n'hésitent pas à recourir à d'autres marchés, dont celui du Bénin. La réalité, c'est surtout l'indisponibilité de conteneurs, qui aujourd'hui les conteneurs sont très chers, ce qui fait que les produits importés au final reviennent plus chers.
Des mesures immédiates et fortes doivent être trouvées pour satisfaire les Béninois qui disent ne plus pouvoir tenir longtemps. De Cotonou, je n'ai plus à attendre pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.